France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De Larbi Ben Barek à Mohamed Salah, de Didier Drogba à Sadio Mané, de Rabah Madjer à Riyad Mahrez, les footballeurs africains ont, depuis le début de la professionnalisation et de la mondialisation du football, fait les beaux jours des clubs européens. Tous les joueurs cités sont des exemples, des idoles même pour des millions de jeunes Africains qui ne rêvent que d'une chose, devenir footballeur professionnel. Le rêve est double, à la fois vivre de sa passion, de ce jeu qui a rempli tant d'heures de son enfance, et gagner de l'argent. Beaucoup d'argent, souvent assez pour subvenir aux besoins d'une famille entière. Ce désir ardent, cet espoir parfois naïf, ouvre malheureusement la porte à l'une des dérives les plus importantes et les plus invisibilisées du football contemporain. La traite des joueurs. Véritable héritage postcolonial, les jeunes joueurs africains sont souvent approchés par des agents sans scrupules, venus d'Europe ou d'ailleurs, leur vendant des chimères et leur faisant signer des contrats aberrants, qui ne leur donnent aucune sécurité et les privent d'une grande partie de leurs gains en cas de réussite. Pire encore, beaucoup d'entre eux sont abandonnés à leur précarité une fois arrivés en terre promise, dans les cas où leur voyage ne s'arrête pas avant. C'est un univers d'escrocs, où se développe une véritable économie parallèle du football, faite de passeurs et de mafieux, qui créent sciemment les conditions d'une grande précarité. Si la libéralisation du marché du football profite certainement à ceux qui réussissent le mieux, les autres sont oubliés du système, rayés de la carte, comme les débris d'une industrie sans contrôle ni réflexivité éthique. Ce numéro de Culture Monde de Florian Delorme, diffusé pour la première fois le 2 février 2012, revient sur cette manifestation d'un football ultra-capitaliste et ultra-libéral, avec notamment Jérôme Gessel, Jean-Marc Guihou et Maryse Ewan-Djepe. L'occasion pour les auditrices et les auditeurs de découvrir le fonctionnement de ces trafics dont toutes les instances internationales ont conscience, sans véritablement y faire grand-chose. Ce sont pourtant pas les moyens qui manquent. La traite des footballeurs africains, passée sous la loupe radioscopique de Culture Monde, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What's your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达米加.
Hollywood star Nick Kaprow की लोचेरी की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Ça y est, on y est. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture entre 11h et 11h50. Vous y retrouverez bien sûr la chronique Frontières d'Alexis Patovsev. Ça sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission, 11h25, 11h30. On poursuit, on clôt aussi notre tour du monde en ballon, cette série autour du football. Et aujourd'hui, transfert et trafic de joueurs. Depuis une quinzaine d'années, disons, et plus précisément depuis l'arrêt Bosman en 1995, depuis l'arrêt Malaja en 2002, qui ont marqué l'ouverture au libre-échange entre nationalités en matière de flux de joueurs, la présence de footballeurs africains s'est accrue. On parle ce matin des trafics de joueurs, des pratiques abusives qui se rattachent à ces transferts. On connaît les dérives qui existent en la matière, par exemple concernant les jeunes joueurs africains qu'on repère et puis qu'on laisse finalement sur le bord de la route parce qu'ils n'ont pas le niveau requis pour devenir professionnels. Alors de quoi tout ça est-il symptomatique? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Comment endiguer ces trafics? Que penser de ces nouvelles écoles aussi de formation type académie en lien avec les services publics? On parle ce matin de ces transferts, de ces trafics de joueurs avec notamment Jérôme Gessel, qui est ancien grand reporter à VSD. Il est auteur de nombreux livres consacrés au foot, La face cachée du foot business, c'était en 2007 chez Flammarion. Puis il prépare un nouveau livre, 2002-2012, La décennie décadente du foot français. Ça sera chez Flammarion au mois de mai. Et puis on retrouvera depuis Bamako Jean-Marc Guihou, qui est l'ancien président du FC Mulhouse et qui a fondé plusieurs académies de football, justement, en Afrique, mais aussi en Asie. Et puis également avec nous tout à l'heure par téléphone, Maryse Ewan-Djepe, ex-championne de France de son auteur, qui est journaliste sportif et qui est auteur des Négriers du foot, qui était paru aux éditions du Rocher en 2012.
Ben Barek. Les amateurs de football en France vous connaissent bien.
Depuis combien de temps avez-vous quitté le football international?
Depuis 1956. De retour de mon Espagne, après 6 ans que j'ai passé en Espagne, j'ai retenu l'Olympique de Marseille. Ils ont demandé que je vienne pour les renforcer. Et j'ai eu le plaisir, n'est-ce pas, de jouer dans l'équipe de France. C'était mon dernier match à 38 ans et demi et je me suis représentant de l'équipe nationale française.
Dites-moi, quand vous pensez à ces matchs, au public qui vous acclamait, est-ce que vous n'avez pas des regrets,
bien entendu, nostalgie? Bien entendu, c'est là où j'ai une grande réputation mondiale d'ailleurs. C'est grâce à la France que j'ai pu obtenir, n'est-ce pas, la vérité. Mais au niveau international qui a valu, au niveau des grands joueurs internationaux à travers le continent.
Ben Barek, c'est toute une histoire. Les débuts à l'Idéal, puis l'Union Sportive Marocaine, grande vedette du football marocain. En 1939, il traverse la Méditerranée pour signer à l'Olympique de Marseille, alors au sommet de sa gloire. Ensuite, en 1945, il vient à Paris, au Stade Français, où il restera 3 ans, avant d'aller 4 ans en Espagne, à l'Atlético de Madrid, et de terminer sa carrière là où il l'avait commencé, en métropole, à l'OM. Le tout jalonné par 16 sélections en équipe de France, dont il fut de longues années l'une des très grandes vedettes.
Voilà, on est allé fouiller dans les archives pour retrouver Larbi Ben Barek, footballeur marocain évoluant dès la période du protectorat français au poste de milieu offensif. Il avait débarqué en France en 1938 pour jouer dans l'équipe de Marseille. Il est également auteur d'une longue, très longue carrière en équipe de France, 1938-1954. Pelé avait dit de lui, si je suis le roi du football, alors Ben Barak en est le dieu. Bonjour Jérôme Gessel.
Bonjour.
Vous connaissez évidemment l'histoire de Larbi Ben Barak. Et ce qu'on voulait montrer à travers ce premier son d'archives, Jérôme Gessel, c'est qu'au fond, dès la création du championnat de France professionnel, c'était en 1932, les clubs sont allés chercher, souvent dans les colonies, des joueurs qui quittaient leur terre natale pour devenir des professionnels. Et au fond, assez vite, ces grands clubs européens sont allés chercher ces clubs en Afrique, chercher la perle qu'on va faire venir jouer dans les plus grands stades européens, Jérôme Gessel. Rien de neuf au fond.
Non, rien de neuf. Et, enfin, en tout cas, ce qui perdure, c'est la qualité en tout cas des joueurs africains, nord-africains. Et c'est vrai que là, Ben Barek en est l'exemple le plus révélateur. Et c'est vrai qu'on aime ces joueurs dotés d'une grande technique, qui font le spectacle, qui aiment dribbler. Et ça donne aussi au football un caractère joyeux que recherchent évidemment les spectateurs. C'est vraiment un football spontané, un football vraiment d'instinct. Et ça, c'est vraiment la spécificité du football africain.
Jérôme Gessel, quand on pense au transfert, qui est la question qui nous intéresse aujourd'hui, si on regarde un peu l'histoire des transferts, on pense évidemment peut-être d'abord et avant tout à Raymond Kopa, qui avait été transféré de Reims au Real Madrid dans les années 50, je ne connais pas la date exacte, mais...
Alors, de mémoire, je crois que c'est 58, et c'est vrai, c'est le premier transfert important, en tout cas, d'un joueur français. Raymond Kopa, c'est le Zinedine Zidane des années 50. D'ailleurs, il va aller signer au Real Madrid et il va faire les beaux jours du Real Madrid avec le grand Di Stefano, le grand avant-centre argentin. Et la presse, à l'époque, va s'émouvoir du fait qu'un joueur français puisse quitter son club et soit acheté d'une certaine façon. Et c'est vrai que...
Quelles étaient, Jérôme Gessel, à l'époque, les règles en la matière? Est-ce que c'était... Il y avait des lois, des règles qui organisaient tout ça. Au fond, c'était un peu anarchique.
C'était un petit peu anarchique parce que on était peu en fait enclin à faire beaucoup de transferts internationaux. C'est-à-dire que quand un joueur arrivait au terme de son contrat, il pouvait après changer de club. Mmh. Mais à l'époque, les joueurs vont au bout de leur contrat. C'est-à-dire que quand ils ont un contrat de 3 ou 4 ans, il faut savoir que dans le football, les contrats sont des CDD. Hein, ce sont des contrats à durée déterminée. On signe pour 2, 3, 4 ans, voire plus. Aujourd'hui, un joueur qui signe pour 5 ans, il ne reste en général que 2 ans dans son club. Or, à l'époque, les joueurs honoraient leur contrat vraiment jusqu'au bout.
Jérôme Gessel, dernier point avant d'aborder, j'allais dire, la période récente, la nouvelle ère ouverte par, je le disais, l'arrêt Bosman, l'arrêt Malagin. quel effet les mouvements de décolonisation ont eu sur les transferts de joueurs de l'Afrique vers l'Europe? Est-ce que ça a augmenté le nombre de joueurs transférés? Est-ce
que ça a pu... Il faut savoir que pour un joueur africain, l'Eldorado, c'est vraiment le football européen. C'est même le football européen et le cœur du football mondial. C'est là où les plus grands clubs sont. Ce sont des clubs aussi qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Donc, pour historiquement, pour un joueur africain, c'est vraiment de s'installer en Europe, le rêve absolu. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, on a vu une accélération justement de ces flux de joueurs venant d'Afrique. Le joueur africain, au-delà de ses spécificités techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, a aussi une espèce de voisinage aussi culturel avec la France qui l'aide aussi par la langue, les pays francophones, à mieux s'intégrer dans une équipe et dans le dialogue avec ses partenaires, c'est beaucoup plus facile pour justement trouver sa place.
Allez, on fait le saut dans les années 90, Jérôme Gessel. L'heure de l'extraversion du football africain. Rappelez-nous peut-être en quelques mots rapidement ce qui va changer avec l'arrêt Bosman en 1995. Bosman, du nom de ce footballeur de Liège qui voulait partir à Dunkerque sans verser d'indemnité de transfert à son club. Et puis l'arrêt Malaja, donc en 2002, du nom là d'une jeune basketteuse polonaise en litige, elle aussi, qui voulait s'engager avec Strasbourg malgré son statut extra-communautaire. Rappelez-nous un peu ce que ça va changer.
Ce qui va changer, ça va être une formidable révolution dans le monde du football. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la mondialisation avant l'heure. Les joueurs intra-communautaires, donc les joueurs européens, peuvent circuler librement de club à club. À l'époque, il y a des quotas, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir plus de, dans les années 80, par exemple, on peut pas avoir plus de 3 joueurs étrangers dans l'équipe. Et aujourd'hui, il peut y avoir des équipes composées uniquement de joueurs étrangers. C'est le cas, par exemple, d'Arsenal, qui, il y a 2 ans, a joué avec une équipe où ne figurait aucun Anglais. Ce qui est absolument incroyable. En tout cas, pour l'identité du club aussi, ça peut être aussi un petit peu difficile. Chelsea aussi fait appel à beaucoup de joueurs étrangers. Et voilà, c'est l'incarnation de ce nouveau football où c'est le football de la mondialisation. Mais malheureusement, ce qui en pâtit, c'est aussi l'aspect d'identification nationale, évidemment.
Alors, au-delà de cette question d'identification, Jérôme Gessel, en quoi, au fond, ces arrêts Bosman et ces arrêts Malaja vont modifier les filières qui organisent ces différents transferts? Est-ce que ça va, par exemple, multiplier la présence des intermédiaires qui vont profiter de ce marché? Enfin, essayez de nous expliquer ce que ça change.
Alors, à l'époque, les agents font... quand je dis à l'époque, c'est les années 80, les agents font quelques transferts dans l'année, ils ont peu de joueurs. Et là, c'est vrai que l'arrêt Bosman va provoquer une libéralisation du marché. Donc, beaucoup de demandes, beaucoup d'offres, beaucoup plus de flux. Les transferts,
beaucoup plus d'agents.
Beaucoup plus d'agents, puisque ça va être un métier qui va être... qui va devenir incontournable dans le monde du football, alors qu'à l'époque, les clubs pouvaient s'entendre entre eux de gré à gré, c'est-à-dire directement. Là, il va avoir des agents qui sont censés représenter les intérêts du joueur. On verra que c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes fondamentaux aujourd'hui dans le monde du football.
N'importe qui peut devenir agent de joueur?
Alors, ça dépend où. En France, c'est un peu plus légiféré. C'est-à-dire qu'il y a un examen d'agent. Il faut avoir quelques notions de droit. Mais ça, pareil... Ces dernières années, on a un petit peu donné une dimension juridique vraiment à cette activité d'agent. Mais avant les années 90, tout le monde pouvait devenir agent et il n'y avait pas vraiment de diplôme à passer et c'était assez facile.
Et mais si moi aujourd'hui, je veux aller par exemple en Afrique, essayer de repérer les stars de demain et organiser un peu leur transfert, leur faire signer des contrats, est-ce que je peux le faire?
Vous pouvez le faire, mais ça sera tout à fait illégal. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font, même si c'est illégal, et qui s'abritent en fait derrière un agent véritable, mais ils travaillent pour cet agent en sous-main d'une certaine façon. Et c'est une activité illégale et qui pose aussi beaucoup de difficultés, parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont d'abord mus par la cupidité, par l'envie de faire de l'argent sur le dos des joueurs, plus que pour servir leurs intérêts. Et malheureusement, ces dernières années ont donné lieu à de nombreux scandales mettant en cause des agents qui profitait vraiment de la faiblesse des joueurs, qui rêvaient évidemment de signer dans des grands clubs et qui se sont fait vraiment rouler dans la farine.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre le tournant Bosman-Malaja dont on a parlé et, au fond, peut-être ce qui a constitué un appel d'air pour ces trafics, pour cette multiplication d'agents et de transferts illicites?
Ah oui, il y a une vraie synchronicité dans le temps, où on se rend compte qu'après l'arrêt Bosman, le flot d'agents, le flot de transferts qui va être multiplié par 25 en quelques années, va susciter évidemment de nombreuses convoitises au niveau des agents. Il va y avoir une réelle concurrence, pas toujours d'ailleurs très loyal, c'est-à-dire que parfois les agents utilisent des actions quand même un petit peu limites pour avoir des joueurs. Ils vont voir les parents alors qu'ils sont très jeunes, mineurs, ils leur font signer des contrats qui sont nuls et non avenus, mais bon, ça fonctionne comme ça.
C'est un peu ce que racontait Pascal Lange dans son film Black Diamond que vous aviez vu, Jérôme Gessel, hein, qui au fond raconte cette toile, ce réseau un peu anarchique international de spéculation, de trafic de jeunes garçons africains. On va en écouter un tout petit extrait avant de retrouver Marie Zewonche. Écoutez.
Je leur dis, bon, est-ce que vous pouvez au moins, même si vous ne me donnez pas mon argent, est-ce que vous pouvez me donner au moins mon billet pour que je rentre chez moi? Comme ça, j'ai la tête tranquille et je peux aller ailleurs. Pas de problème. Mais le club a décidé de me laisser partir comme ça sans rien me donner. Je leur dis, mais chez qui je loge? Où je dors? Parce que je ne suis pas tunisien. Je viens à Tunis, où je reste et tout. Rien du tout. Rien.
Vous savez, en Côte d'Ivoire, je dis, quand tu parles de football, c'est la passion. Tout le monde est passionné, on ne réfléchit plus, on s'engage. Donc voilà comment les enfants s'embarquent dans cette aventure.
Quand Aspi est venu, je les ai vus, j'étais content. Parce qu'ils ont écrit sur le papier et le rêve qui sera réalisé. Donc ça, bon, je pensais que mon rêve était déjà réalisé. Chaque jour, je m'entraînais, je faisais le tour dans la cour ici.
Ils nous ont déposé simplement des fiches qui voulaient des enfants de 13 ans. La seule explication, c'est le Qatar qui veut faire des recrutements de joueurs.
Black Diamond de Pascal Lange, où on entend ces jeunes joueurs qui pensent que leurs rêves seront réalisés, et souvent ils ne le sont pas, justement. Bonjour Maryse Ewondjepe.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une ancienne athlète de haut niveau. Vous avez été, faut-il le rappeler, 17 fois championne de France de saut en hauteur. Vous avez été quatrième au JO de 84, reconvertie aujourd'hui dans le journaliste sportif. Et vous êtes auteur des Négriers du foot, qui était paru aux éditions du Rocher en 2010. Vous êtes intéressé donc à la traite de jeunes joueurs africains face à ce ticket pour l'ascenseur social, pour reprendre votre expression, que représente le foot. Trafic d'identité, chantage, ruine familiale, disparition. Le phénomène a bouleversé la vie de milliers de familles. Pour un Samuel Eto'o, idole de Barcelone à l'Inter de Milan, combien de clandés du foot abandonnés à leur sort par des agents véreux? Un exilé africain sur 1000 en moyenne fera carrière dans le football. D'abord, avant de parler de ces trafics, Marie Zewonche, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ce problème-là et qu'est-ce qui a été compliqué pour vous? Quelles ont été, au fond, les difficultés que vous avez rencontrées pour aborder ce qui reste quand même un sujet assez tabou encore aujourd'hui?
Alors en fait, j'ai pas rencontré énormément de difficultés pour la simple et bonne raison que je ne suis pas issue du milieu du football et que j'allais dire on s'ouvrait plus facilement à moi. Mmh. Donc je travaille pas dans le football, je n'attends rien du milieu du football, donc je pouvais parler plus librement. Ce qui m'a sensibilisée, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, sont mes ascendances africaines qui fait qu'effectivement ça me touche et ça me blesse particulièrement. Et puis le fait qu'en commençant à travailler dans le milieu de la radio africaine où j'avais une émission qui était diffusée en Afrique francophone, eh bien je me suis mis à recevoir des centaines puis des milliers de messages de jeunes qui venaient d'Afrique ou qui étaient déjà en Europe et qui me demandaient en tant que tanti, donc en tant que grande entre guillemets, mon aide pour les aider à réaliser leurs rêves, leur passion, le football. Donc c'est vrai qu'au début je faisais pas plus attention que ça. Je pensais que c'était des spams, vous savez, ce genre de trucs là que vous recevez de Côte d'Ivoire, vous disant que vous allez gagner plein d'argent. Puis rapidement, les histoires sont devenues très précises et très douloureuses. Donc je me suis mis à en parler autour de moi avec des footballeurs qui m'ont dit « Oh là, mais oui, on en reçoit nous aussi plein ». En fait, je me suis rendu compte que quelle que soit la personne qui avait un petit nom, une petite fonction dans le sport ou en Europe et qui soit un tout petit peu connue, était submergée de ces demandes de jeunes totalement désespérés qui n'ont pour ambition que de devenir footballeur en fait, et footballeur en Europe.
Marie Zewandje Epe, toujours dans ce livre, hein, Les Négriers du foot, vous racontez l'histoire de Edel, qui est un jeune du Cameroun qui s'est retrouvé gardien de foot au PSG, qui va se retrouver avec quelques-uns de ses congénères sur les terres gelées d'Arménie. En Europe de l'Est, dites-vous, les jeunes Africains sont mis en position d'attente, le temps de faire oublier leur âge et patronyme de naissance et de se construire une expérience avant éventuellement de rejoindre les championnats sérieux. Un procédé qui s'identifie à un blanchiment de joueurs, dites-vous, sans aucun mauvais jeu de mots, précisez-vous. De façon très naïve, Marie Zewandje Epe, comment ça se passe, ce blanchiment de joueurs? Essayez de nous faire comprendre comment ça fonctionne, le réseau, par quoi on passe.
Bah, en fait, c'est très simple. L'idée, c'est de rejoindre l'espace Schengen parce que les clubs en Europe ont droit à un certain nombre de quotas de joueurs étrangers. Par contre, quand on fait partie de l'espace Schengen, c'est beaucoup plus facile d'intégrer une formation et de ne pas rentrer dans ces quotas. Donc, les faire rentrer dans des pays moins cotés, on va dire, en termes de football, les faire connaître d'abord dans ces pays-là et puis surtout leur donner une légitimité Schengen, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, on les naturalise, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé avec Edel Edima Apula, qui est arrivé à l'âge de 15 ans en Arménie, qui a été naturalisé moins d'un an après, qui a été donc sorti dans toutes les sélections, chez les jeunes, puis chez les juniors, puis chez les seniors. Il a enquillé des centaines de matchs très 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 rapidement, et une fois qu'il a obtenu une certaine cote, donc il est parti c'est une chaîne de transformation en fin de compte, hein, donc il est parti du Cameroun, il valait 3 francs 6 sous, plus exactement une petite dizaine de milliers de francs CFA, donc rien on va dire. Et puis quand il arrive en Arménie, qu'il devient champion d'Arménie, il commence à prendre une certaine cote. Quand il est naturalisé arménien, il prend une cote supplémentaire, et là on peut le revendre, et pour le coup tout le monde se fait énormément d'argent.
Mais Marie Zewandje Epe, il y a quand même des règles, j'imagine que la FIFA a mis en place un certain nombre de réglementations pour encadrer tout ça. Quelles sont-elles et pourquoi ça marche pas?
Alors ça marche partiellement, parce qu'effectivement...
Ah, pourquoi on peut y échapper alors?
Ce qui marche, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on faisait partir des gamins très 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 jeunes, donc 13 ans, 14 ans, voire même plus jeunes que ça. La FIFA s'est intéressée principalement à ça, puisque le trafic d'enfants est interdit, et donc a mis des règles très claires qui permettent d'empêcher qu'un jeune puisse partir d'Afrique ou d'ailleurs, parce que malheureusement ça ne se passe pas que en Afrique, s'il est mineur. Donc ça, c'est pas possible. Il faut qu'il soit accompagné au moins de l'un de ses parents, et que le parent en question le suive dans le pays pour d'autres raisons que le football. Malheureusement, ça aussi, c'est contournable. Donc, on en a moins, on en a beaucoup moins quand même des jeunes qui partent, même si on a vu récemment quelques très grands clubs anglais, brésiliens et autres acheter des jeunes dès l'âge de 3 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, on met un pari sur un gamin, c'est un pari, hein. C'est-à-dire on est dans l'action quasiment sur un gamin, et puis en gros, on prévoit qu'il sera en centre de formation à 10 ans. C'est-à-dire que le football rapporte tellement que de toute façon, si on se plante, on ne perd pas grand-chose, et si on gagne des millions. Donc ça, c'est assez simple. Et la loi, elle est facilement contournable parce que on a vu par exemple des gens adopter des gamins. Donc effectivement, on se retrouve avec des mamans entre guillemets qui ont 10-12 gamins adoptés d'Afrique, et puis comme ça ils peuvent les suivre. Mais il y a moins de trafic de jeunes mineurs. Par contre, le problème reste entier et reste même, je dirais, croissant avec les jeunes majeurs. C'est-à-dire qu'on part plus à 18 ans, mais on va partir à 18 ans et demi. Et puis on a un phénomène qui s'inverse. C'est-à-dire qu'avant on avait des gamins de 20, 21 ans qu'on rajeunissait pour les rendre plus vendables à l'étranger. Maintenant, c'est l'inverse. On va rendre des gamins un petit peu plus âgés pour qu'ils puissent contourner le phénomène de l'âge de 18 ans.
Jérôme Gessel. Je rappelle que vous êtes membre, vous, Jérôme Gessel, d'une association qui s'appelle Foot Solidaire, qui s'occupe notamment de ces problèmes-là.
Voilà, qui s'occupe en fait des joueurs qui sont laissés à l'abandon, soit quand ils arrivent parce qu'ils ont été aux mains
d'un... représente la majorité.
D'un agent véreux qui a pris l'argent, en fait, parce que souvent, ce sont les familles tout le temps quasiment, qui paient à l'agent des grosses sommes pour que leur fils puisse aller en Europe. Donc il y a le voyage à payer, plus des commissions diverses et variées qui peuvent être vraiment des grosses sommes d'argent pour des Africains. Ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Enfin, c'est des sommes très importantes pour l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est que sur le rôle de la FIFA, moi je suis plus circonspect parce que la FIFA est donc... une organisation de droit privé suisse, et en fait ces règlements parfois viennent aussi se buter sur les lois spécifiques de chaque pays, donc c'est très difficile de trouver une harmonisation. Et ce qui est aussi très compliqué pour la FIFA, c'est d'enquêter en fait sur tous les transferts. En fait, eux, ils se saisissent des dossiers seulement quand il y a eu anomalie, c'est-à-dire que quand on a pu rendre public un transfert qui n'était pas légal, ou mais il y en a plein d'autres dont on n'a pas entendu parler, mais qui évidemment ont lieu. Donc là-dessus, c'est assez compliqué pour eux. C'est aussi très compliqué de tracer l'argent aussi, puisque aujourd'hui, grâce aux paradis fiscaux qui existent encore, il y a des joueurs qui appartiennent aujourd'hui à des sociétés offshore, des sociétés privées. Et c'est vrai que Maryse Evangépé parlait d'enfants de 3 ans qu'on achetait carrément. C'est arrivé aussi pour Ronaldo, le joueur brésilien. On l'a acheté à 12 ans. Il y a deux agents brésiliens qui l'ont acheté à l'âge de 12 ans, parce que c'est vrai que c'était un joueur qui était prometteur. Et ils l'ont, leur société a pris les droits fédératifs, ce qu'on appelle les droits fédératifs, c'est-à-dire du joueur. En d'autres termes, Ronaldo leur appartenait. Et quand il a fait son premier transfert, ce sont les agents de Ronaldo qui ont pu avoir tout l'argent.
Jérôme Gessel, je rappelle, membre de cette association Foot Solidaire, vous en rencontrez donc des jeunes qui sont laissés sur la route.
Oui,
vous parliez du cas d'un jeune Luc là, que vous avez rencontré récemment.
Oui, alors c'est vrai que ce sont des histoires qui sont déchirantes et il y en a beaucoup, par exemple, qui dorment dans la rue quand ils arrivent en France et que personne ne les prend en charge. Ou alors, parfois, ils peuvent être aussi virés d'un centre de formation parce qu'ils font pas l'affaire. Et moi, j'ai le cas du jeune Luc. C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est le chemin inverse. Luc, qui est de Yaoundé, rêvait d'une carrière en Europe. Alors, classiquement, il a été pris en charge par un agent véreux qui l'a abandonné dès son arrivée en France. Luc, qui est un garçon de 18 ans et très courageux, il est allé lui-même frapper aux portes de clubs comme Tours. Il n'a pas fait l'affaire, malheureusement, mais Culture Foot Solidaire a pu lui trouver un contrat professionnel au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a fait le chemin inverse et aujourd'hui il est footballeur professionnel au Cameroun. Il gagne 250 € par mois, ce qui est pas beaucoup, c'est vrai, pour un footballeur professionnel, mais ce qui est tout à fait acceptable en tout cas au Cameroun. Et en tout cas, il est heureux aujourd'hui de pouvoir faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire jouer au football.
Bon, c'est une belle histoire, malheureusement elle est trop rare.
Justement, c'est justement la vocation de Culture Foot Solidaire de précisément s'occuper de ces jeunes-là, même si c'est vrai, il y a tellement de dossiers. C'est difficile de trouver une issue favorable pour tous.
Maryse Evangépé, vous avez écrit votre livre en 2010, ça fait maintenant 2 ans. Quel écho ça a eu du côté de l'Afrique ?
Aucun. Aucun, pour des raisons très simples, tout comme le film de Pascal, c'est que un livre qui est publié en France ne va pas forcément être lu en Afrique parce qu'il coûte beaucoup trop cher. L'équivalent de 19 €, malheureusement, c'est pratiquement un demi-salaire dans un nombre de pays, et qu'il faudrait que les éditeurs se mettent un petit peu d'accord entre eux pour pouvoir, une fois que le livre a vécu sa belle vie, entre guillemets, en Europe, revendre les droits et puis le céder à bas coût, voire le céder tout court. Et la même chose pour le film de Pascal, si on n'a pas les réseaux des centres culturels français, il n'est pas vu. Et c'est fort dommage, parce que quand on avait été à la première du film, j'étais accompagnée de 2 jeunes Maliens que j'ai suivis jusqu'à leur expulsion, malheureusement, enfin en tout cas pour l'un d'entre eux, et le plus jeune d'entre eux était quasiment en larmes après le film en me disant « si j'avais vu ça, Tati, avant, je serais pas venue ». Donc moi, ça me rend malade d'ailleurs au sens propre, j'ai fait quasiment une dépression après ce bouquin, parce qu'il a été très douloureux à sortir, parce qu'au fur et à mesure, j'ai rencontré un tas de jeunes que je rencontre toujours, parce que moi aussi, je travaille dans une association qui est Mani Football Forever, et dans cette association, on a environ 200 appels par semaine. Donc c'est une douleur qui en fait ne me quitte pas, parce que quand j'ai des jeunes qui m'appellent et qui me disent « Tanti, il faut m'aider, je suis à la rue, est-ce que tu peux m'aider, reçois-moi chez toi ?» Il est bien évident que c'est hors de question, que je ne peux pas, et puis que ça réglerait pas le problème. J'ai des enfants et puis j'ai pas une pension de famille. Et puis en plus, je me rends compte que c'est c'est pratiquement sans fin parce que, par exemple, pour le jeune, le dernier jeune pour lequel j'ai été jusqu'au tribunal, et je n'étais pas toute seule d'ailleurs à y aller au tribunal, hein, c'était un jeune qui avait un très bon niveau, qui était passé par Abidjan et qui était en première division au Mali. Et je lui avais proposé, je lui avais dit, tu sais, je connais du monde au Mali, je peux te faire rentrer, je peux pas te garantir que tu vas faire une carrière de footballeur international. Mais je peux te présenter des gens qui vont te faire jouer à un bon niveau. Je vais te mettre dans une académie. Il voulait rien entendre. Il voulait rien savoir. Et il ne voulait rien savoir jusqu'à ce qu'on aille au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on aille à l'expulsion. Et ça, c'est à hurler, quoi. C'est à hurler.
Comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation ?
À l'heure actuelle, d'abord, il faudrait que toutes les associations s'entendent. Donc, effectivement, toutes les associations, on n'est pas nombreux, donc c'est vite vu. Mais effectivement, il faut faire une sorte de lobbying. Et puis, moi, j'appelle les gens qui nous écoutent en ce moment à rejoindre ces associations parce qu'on est peu nombreux, malheureusement, physiquement parlant, on est vraiment peu nombreux. Pour amener ça, parce que je suis pas dupe, hein, Jérôme Gessel disait, je suis pas aussi optimiste, moi non plus, hein, au niveau de la FIFA, je sais très bien que les besoins qu'ils ont fait ne sont que des mesurettes pour l'instant, mais on est en période électorale, donc il y a un certain nombre de députés qui se saisissent de la chose, il y a un certain nombre de commissions qui se sont réunies, il y a eu une assemblée parlementaire au sein du Conseil économique européen, pardon, il y a peu, sur la bonne gouvernance et l'éthique du sport. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment donné où, effectivement, il faut taper du côté des politiques, tout bord confondu, aller voir les députés dans les villes. Quand vous rencontrez des jeunes qui traînent dans la rue pour raison de football, il faut en appeler à vos députés maires, il faut demander à ce qu'il y ait effectivement des réunions de façon à ce qu'on se renvoie pas la balle. Parce que le problème principal qu'on rencontre, nous, associations sur le terrain, c'est que, bon, évidemment, on s'adresse d'abord à nos élus qui nous disent « Ah là là, mais c'est un problème d'immigration », donc après on va voir l'immigration qui nous dit « Non, non, c'est un problème sportif », donc on va voir la Fédération Française de Sport qui vous dit « Non, non, c'est un problème international », donc on écrit à la FIFA qui vous dit « C'est un problème de territorialité et de gouvernement », et hop, on revient du côté de l'immigration, du ministère des Sports, de la Fédération, et en fait on se retrouve finalement membre de la société civile avec ces jeunes sur les bras qui ne devraient jamais être sur nos bras.
Jérôme Gessel.
Non, mais c'est vrai, là je rejoins Maryse. Alors, moi j'ai fait partie d'une mission d'information parlementaire en 2007, justement sur le rôle de l'agent et des transferts dans le football. Et ça a duré une semaine, on a très bien travaillé, les dossiers étaient étayés, on a vraiment expliqué le panorama mondial du football, et malheureusement cette mission d'information elle a débouché sur rien, c'est-à-dire que sur le moment c'est vrai qu'on en a fait beaucoup de publicité, et puis on s'est dit regardez les députés s'intéressent un petit peu, enfin les parlementaires s'intéressent à ce qui se passe dans le monde du football, le rôle des agents... Bon, et malheureusement, ça n'a rien réglé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les transferts de joueurs sont aujourd'hui la source d'enrichissement personnel des agents, mais aussi de certains dirigeants de clubs. Donc, c'est aussi un des principaux problèmes aussi qui ronge le football aujourd'hui.
Et oui, parce que quand on parlait de la chaîne de transformation, vous prenez un gamin qui est passé par plusieurs clubs, mettons du côté de Yaoundé ou d'ailleurs, et puis qui va faire un certain nombre de clubs, on sait très bien que le jour où le gamin, s'il arrive tout en haut de l'échelle, s'il se retrouve dans un gros club, eh bien on va devoir payer des indemnités à toutes les clubs qui ont participé à sa formation avant l'âge de, je sais plus si c'est 23 ou 21 ans, je crois que c'est 23.
23,
donc,
oui.
Et ces indemnités de formation, elles sont colossales, ça va jusqu'à des 90 000 euros, donc on imagine bien qu'on n'a aucun scrupule à abandonner un gosse sur le terrain, en faire venir 100 en France, s'il y en a un de toute façon qui réussit, mais il paye largement les efforts qui auront été faits pour les 100 autres, les 100 autres. Donc ça, c'est effectivement très compliqué. Je rejoins Jérôme Gessel sur les discussions. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a une très belle émission sur ce sujet. Moi, j'étais très surprise. Ces 15 derniers jours, je n'arrête pas de recevoir des appels de journalistes, de radio, télévision, qui veulent que je témoigne là-dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça faisait 6 mois qu'on ne m'appelait plus. Ben, tout simplement, c'est la Cannes, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à chaque fois qu'il y a un petit éclairage sportif mondial qui ramène sur ce sujet-là, on va en parler. Les hommes politiques vont se faire un petit peu mousser dessus. Effectivement, on va avoir des tables rondes, on va avoir des commissions européennes, on va aller à Strasbourg, on va tous se rencontrer. Ça va relancer un peu. Moi, à chaque fois, ça me remotive. Je dis, allez, hop, on repart sur le terrain, on se réunit les associatifs, on essaye de faire bouger. Et puis après, on se rend compte qu'une fois que la fenêtre de tir médiatique est passée, eh ben, les portes, elles sont à nouveau complètement fermées.
Bon, Maryse Evangé-EP, je dois dire que vous avez raison, malheureusement. On essaiera de faire un effort pour en parler à un autre moment que la CAN. En tout cas, merci infiniment. Et je rappelle le titre de votre livre, Négrier du foot, qui est paru aux éditions du Rocher. On va retrouver la chronique frontière d'Alexis Patostef. Alexis qui aujourd'hui nous parle de futurologie, mais pour ça, petit retour en arrière, petit retour en 1900.
Je suis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le monde entier arrive soudainement dans ma petite chambre. Je suis l'homme télévisuel. J'ai découvert récemment avec stupéfaction que l'apparition de ces Television Men, chanté si bien par Talking Heads en 1985, a été envisagée dès l'année 1900 par un ingénieur civil des chemins de fer des États-Unis, John Alfred Watkins. En décembre de la dernière année du 19e siècle, il a publié dans un magazine féminin, The Ladies Home Journal, un article futuriste où il dressait le portrait du monde un siècle après, au moment du passage vers le nouveau millénaire. L'article commence par une précaution. Ces prophéties peuvent paraître étranges, voire impossibles, même si le futurologue dit avoir consulté l'opinion des institutions les plus savantes du pays pour chacun de 29 sujets abordés. Plus d'un siècle après, on est étonné de la justesse des pronostics de Watkins concernant la télévision, par exemple. Les personnes et les objets de toutes sortes seront apportés depuis plusieurs milliers de kilomètres dans des caméras connectées électriquement à des écrans. La télévision est apparue seulement 35 ans après. Ou encore une citation évoquant une idée révolutionnaire pour l'époque. « Les téléphones sans fil seront partout dans le monde. Un mari au milieu de l'Atlantique pourra converser avec son épouse dans son boudoir new-yorkais. » Watkins a prédit également l'apparition de la photo numérique, sans évoquer le terme en question bien évidemment. « Les photos seront télégraphiées depuis n'importe où. S'il y a une bataille en Chine, la photo apparaîtra dans le journal une heure après. » De la même manière, il a prévu l'agriculture intensive, les repas préfabriqués, le ralentissement de l'accroissement de la population en prédisant assez correctement le nombre d'habitants des États-Unis en 2000 et le fait que les Américains seraient plus grands qu'en l'an 1900. Des forteresses roulant sur roues vont traverser les espaces à une vitesse de train express d'aujourd'hui. Je vous rappelle que la première bataille avec les chars a eu lieu seulement en 1916. Et il a même prédit l'apparition du TGV aux États-Unis en calculant leur vitesse maximale d'une justesse absolue, 150 miles par heure. Mais évidemment, en regardant dans sa boule de cristal, Watkins a également pu se tromper des prévisions. A, B, C, D, E, F, G, H, la célèbre comptine de Beatles. Eh bien, John Alfred Watkins a pensé à tort que certaines lettres de l'alphabet allaient totalement disparaître aux États-Unis, notamment les lettres C, mais aussi les X et les Q. Elles seront abandonnées car elles sont inutiles, écrivait Watkins. Et puis, il a fait d'autres pronostics qui ne sont pas réalisés, mais je regrette que ce ne soit pas le cas. Par exemple, nous ne marchons pas tous, comme le prévoyait Watkins, au moins 10 miles par jour. Notre futurologue croyait également naïvement que les voitures seraient totalement interdites dans les grandes villes et que la circulation se ferait uniquement sous ou au-dessus de la surface terrestre à travers un système de viaducs. Watkins a bien vu l'apparition des modifications génétiques, sans utiliser le mot « gène », bien évidemment. Mais il s'est un peu trompé de cible. Des fraises aussi larges que des pommes seront mangées par nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Et puis encore une prévision qui ne s'est pas réalisée. Les mouches, les cafards et les moustiques étaient censés totalement disparaître vers l'an 2000. Évidemment, la balance naturelle n'a pas du tout basculé dans ce domaine. Et en plus, les États-Unis ont commencé le XXIe siècle en souffrant de l'invasion d'autres insectes nuisibles qu'on croyait presque éradiqués, les punaises. Mais qui sait, peut-être les petites bêtes vont-elles disparaître vers l'an 2100 ? Entre-temps, on a le droit de s'inquiéter, à la manière de Graham Coxon, de la disparition rapide et mystérieuse d'une autre espèce qu'on aimerait bien garder, les abeilles.
Frontières, la chronique d'Alexis Patovstev que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Retour dans notre semaine sur le football où vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h passées 37 minutes. Toujours dans cette émission sur les transferts, sur les trafics de joueurs. On était tout à l'heure avec Marie Zewandjepe. On va aller du côté du Mali pour retrouver Jean-Marc Guillou et pour aller au Mali, qui de mieux que Salif Keïta? Calculé, Salif Keïta, musicien malien, bien sûr. Bonjour Jean-Marc Guillou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous en direct depuis Bamako. Alors, je fais les présentations pour ceux qui vous connaissent pas. Ancien international français, président du FC Mulhouse, entraîneur et président de la société JMG Football. Vous avez fondé, Jean-Marc Guillou, l'école de football d'Abidjan, Académie de Sol Béni. Ça, c'était donc en Côte d'Ivoire, mais vous avez créé d'autres académies. Antsika, Madagascar, Tchamburi en Thaïlande, Pleiku au Vietnam, Wadi Degla au Caire, Paradou en Algérie. Et en 2005, vous êtes rendu à Bamako, au Mali. Vous êtes accueilli par Salif Keïta. Alors, pas le musicien qu'on entend là, mais l'ex-star du ballon rond. Et puis, tous les membres de la Fédération malienne du football. Vous avez même rencontré le président Amadou Toumani Touré. La question que je me pose, Jean-Marc Guillou, c'est d'abord, quel regard est-ce qu'on porte là-bas sur le sort réservé à ces jeunes Maliens, à ces jeunes Africains dont on parlait il y a un instant avec Marie Zewandjepe, qui veulent tenter leur chance dans le foot professionnel et qu'on laisse sur le bord de la route comme ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel on est sensible, très sensible? Ça, vous l'avez senti quand vous êtes rendu à Bamako?
Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que je pense que ce qui prévaut ici, c'est plutôt la réussite des gamins plutôt que l'échec des gamins. C'est clair que il y a des jeunes qui partent comme ça et puis qui se retrouvent un petit peu abandonnés en Europe. C'est vrai, ça existe. Mais je dirais que tous les gens qui regardent les jeunes qui travaillent et qui se forment, qui essayent de devenir des joueurs professionnels, on pense plutôt, en tout cas leur famille, pense plutôt à la réussite qu'à l'échec. Bon, c'est clair qu'il y aura des échecs, mais je pense que le football est pour la plupart des gens ici un espoir, quoi, une perspective quand même.
Mais comment qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et est-ce que c'est possible d'ailleurs, Jean-Marc Guillou? Et est-ce que la solution, si solution il y a, passe par là? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les sensibiliser davantage?
Pour les sensibiliser davantage, je pense qu'il faut leur dire la vérité. C'est-à-dire que, on ne doit pas partir comme ça en Europe sans contrat, sans avoir été invité par un club. Il ne faut pas qu'ils suivent n'importe quel individu venu qui va leur faire miroiter une réussite et puis qui après, si cette réussite ne vient pas, les laisse complètement tomber. Je pense qu'il faut que les gamins, il faut simplement une espèce d'information, quoi, je veux dire. Mais il est clair que c'est assez tentant pour n'importe quel gamin africain de suivre quelqu'un qui lui dit tu es bon, d'abord parce que les gamins ils pensent tous qu'ils sont bons, et ensuite quelqu'un qui lui dit t'es bon, tu viens avec moi, je vais te faire devenir riche, tu vas devenir une star ou tu vas jouer au football. Ah, c'est un rêve, et donc il va le suivre forcément, même si vous l'informez en disant attention, faut pas le faire, il le fera quand même. Pourquoi? Parce que l'espoir sera grand chez lui d'y arriver, quoi.
Jean-Marc Guillou, si on regarde un peu, donc vous avez fondé toutes ces académies un peu partout dans le monde, en Afrique et en Asie. Ouais. On va prendre par exemple ce projet malien. Vous arrivez à Bamako, ouais. On vous donne un terrain qui à la base appartient au club local, qui est le club du Real de Bamako. Ouais. Votre projet aboutit, vous pouvez installer votre académie. Essayez de nous expliquer un peu quels sont au fond les accords entre le club du Real Bamako, le centre de formation, les joueurs, bref, quels sont les grands principes qui font
comment ça marche?
Vos académies, comment ça marche, voilà.
Bah écoutez, le principe c'est d'aller dans les pays où il n'y a pas vraiment un travail de formation qui se fait. Déjà parce que vous êtes assuré d'avoir les meilleurs. Mmh. Et un des principes de formation essentiels à la réussite, c'est de réunir les meilleurs joueurs. Parce que les meilleurs entre eux se valorisent. Et donc à partir de là... Moi, quand je viens en Afrique, maintenant on est assez connu parce qu'on travaille depuis longtemps dans ce domaine. Et puis je pense qu'on a prouvé notre sérieux. Donc à partir de là, assez vite, on a l'oreille des gens qui nous écoutent, qui nous aident. Et on s'installe et puis on commence à travailler. On travaille tous les jours. C'est un travail de longue haleine. On fait des contrats de 6 ans avec les gamins. On a des droits et des devoirs, bien sûr, comme tout contrat. Et je pense qu'on les respecte et je pense que les gamins sont heureux chez nous. Donc c'est, puis bon, je pense qu'on leur change la vie parce que quand ils rentrent chez nous, ils ont justement un espoir, mais c'est un espoir qui nourrit chaque jour par un travail, quoi.
Donc chez vous, pas de recruteurs qui débarquent et qui,
Il y en a. Mmh. Mais on les appelle pas, mais cela dit, il y en a qui viennent. Mais c'est des recruteurs qui sont plus, c'est pas des agents. La plupart du temps, ce sont des gens qui viennent de clubs déjà. Donc, c'est des gens qui travaillent dans des clubs et qui, si demain, ils disent à nos gamins on serait peut-être intéressé que tu viennes chez nous. Bon, là, c'est sérieux, je veux dire.
Pas d'intermédiaire, plutôt.
Ah, il peut avoir des intermédiaires. Ouais. Hein, je veux dire, les intermédiaires, quand ils sont, disons, ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire des vrais conseils à des gamins, parce que des gamins, si vous les laissez face à des dirigeants, il y a beaucoup de dirigeants qui vont quand même profiter. Mmh. Si les agents existent, quand même, la plupart du temps, c'est parce que les dirigeants ont, à un moment donné, exagéré par rapport aux jeunes joueurs. Mmh. Et aujourd'hui, les agents, ils existent pas tout simplement, il y avait une injustice. Mais non, l'injustice est totalement à l'inverse. On dirait que les joueurs ont plus d'avantages à la limite que les dirigeants. La preuve, c'est que tous les clubs n'arrivent pas à faire des bénéfices.
Ouais. Jean-Marc Guillou, comment est-ce que votre démarche est perçue sur place? Est-ce que vous êtes vu comme un bienfaiteur? Est-ce que vous êtes vu, je crois qu'il y a certains de vos meilleurs ennemis qui vous appellent le négrier?
Oui, c'est sûr.
Alors entre bienfaiteur et négrier, quoi.
Oui, oui. Bah écoutez, moi je sais pas. Franchement, je sais pas. On est très bien perçu ici. Mmh. Dans toutes les académies, où, quel que soit l'endroit, en Asie, en Europe et en Afrique, franchement, on n'est pas perçu comme des négriers. On est plutôt perçu comme des gens qui apportons une opportunité, une chance, quoi, un espoir. C'est clair qu'on ne le fait pas gratuitement. On le fait avec un espoir aussi pour nous de pérenniser ce travail et de recevoir des subsides quand on a bien travaillé, ce qui me paraît tout à fait normal et mérité. Donc, tout est clair pour nous, quoi. Vous me posiez la question, comment ça se passe avec Bamako ou avec les Africains? Il y a des contrats très clairs, et si vous voulez un jour les voir, on vous les montrera.
Ah non, mais je ne formule aucune sorte d'accusation.
Je sais bien, mais je veux dire, quiconque veut savoir...
Non, mais c'est-à-dire, c'est une réalité, en effet.
Il n'y a pas d'embrouille.
Oui, non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en effet, il y a plusieurs réalités. C'est celle qu'on vous considère à la fois comme un bienfaiteur et parfois par certains, peut-être une des personnes qui n'apprécient pas forcément votre démarche.
Non, mais ça, ce sont les gens qui disent négrier. Mais bon, ils ne sont jamais pensés la question de savoir qu'est-ce que faisaient les clubs quand ils font la formation avec les Blancs. Alors, c'est quoi? C'est de la traite de blanche?
Il y a Jérôme Gessel qui est avec moi ici en plateau qui voulait réagir à vos propos.
Oui, en tout cas, non, ce qu'a fait Jean-Marc Guillou, évidemment, c'est pas un philanthrope, hein, il le dit lui-même, et ça, c'est honnête. Et en même temps, ça a permis de structurer vraiment le football africain qui, pour le coup, n'a pas de centre de formation à la française. Donc, les mômes qui sont chez Jean-Marc Guillou, ils ont à manger tous les jours, ils sont soignés,
ils vont à l'école,
ils apprennent un métier, donc ça c'est vraiment
ils vont à l'école
pour le coup des choses positives.
Alors ils vont à l'école, hein, Jean-Marc Guillou, hein.
Oui, ouais. À l'école, bien donc, sûr, ils sont
donc,
jeunes. Hein.
Donc là-dessus, le travail de Jean-Marc Guillou a été remarquable en Afrique, même si c'est vrai, il le dit lui-même, il y a quand même des visées d'argent, et c'est normal.
Il y a une dimension économique. Oui,
en revanche, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait que les clubs ne pouvaient pas faire de profit à cause justement des joueurs qui auraient pris le pouvoir, là, pour le coup, je m'inscris un peu en faux par rapport à ça. Les clubs, ce sont les dirigeants de clubs, hein, qui détiennent les cordons de la bourse. Et si les clubs sont en déficit, c'est que malheureusement, les dirigeants n'ont pas de rationalité économique. Ils payent trop les joueurs, payent davantage les joueurs qui ne peuvent les payer. Il y a des clubs en Espagne qui payent au-delà de 150% du budget annuel. Ouais. Enfin, c'est absolument ahurissant. Évidemment, après, on peut arriver qu'à des résultats catastrophiques en termes économiques. Aujourd'hui, plus de 60% des clubs de première division à travers l'Europe, c'est-à-dire les 737 clubs, il y a 60% qui sont en déficit. Donc, il y a une vraie anomalie économique.
Jean-Marc Guillou, une toute dernière question, parce qu'on arrive presque au terme de notre émission. Qu'est-ce que deviennent les joueurs que vous avez pris dans votre académie qui, au fond, n'ont pas réussi à percer parce que, voilà, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont ni dans le club du Real de Bamako, ni ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils quittent votre académie? Est-ce que vous avez un peu des nouvelles d'eux parfois?
On n'en est pas là à Bamako. On pourrait prendre l'exemple d'Abidjan plutôt que de Bamako, parce que Bamako, ça fait 4 ans, 15, 5 ans, aucun joueur n'est encore de sortie de chez nous.
D'accord.
De Bamako. Donc on peut pas dire ça. Mais d'une manière générale, les joueurs qui ne réussissent pas au niveau professionnel, il y en a quand même beaucoup qui réussissent au niveau professionnel, d'autres réussissent à un niveau un tout petit peu plus bas, qui est la 3e division en France, par exemple, ou la CFA, CFA 2. Et après, ils trouvent un boulot avec, parce que bon, bah, ils ont une petite culture chez nous, donc. Et puis bon, bah, il y en a d'autres qui se reclassent après, mais je pense que pour eux, les AMF Academy restent quand même comme de très belles années, quoi. Je veux dire, donc, globalement, je ne peux pas assurer la réussite humaine et économique à tous les gamins qui passent par chez nous, ça c'est clair.
Merci.
Il y en a qui réussissent extrêmement bien. Ce sont les mieux lotis, je dirais, mais cela dit, il y en a beaucoup qui réussissent extrêmement bien et qui dépensent quand même beaucoup, beaucoup d'argent qu'ils gagnent. Donc, c'est pas sûr qu'à la fin de leur carrière, ils soient aussi riches qu'ils ne... ou pas beaucoup plus riche qu'il n'était au départ.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment, Jean-Marc Guillou, d'avoir été avec nous en direct depuis Bamako. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Ce que vous entendez là, Jérôme Gessel, c'est la première version, parce que ça c'était l'hymne de la Coupe du Monde de football, mais avant c'était déjà une chanson, 86, Waka Waka, Time for Africa, ça c'était la Coupe du Monde, mais bien sûr c'était Zangalewa, un tube camerounais en 1986, vous le connaissez évidemment.
Oui, bien sûr, Roger Milla, c'est l'époque de Roger Milla, c'était extraordinaire.
Allez, merci beaucoup à toute l'équipe de Culture Monde.
C'était Le Tour du Monde en ballon, la traite du foot, un numéro de Culture Monde de Florian Delorme, diffusé pour la première fois le 2 février 2012, réalisé par Doria Zénine et Jean-Christophe Francis, avec Jérôme Gessel, Jean-Marc Guillou et Marie-Zévan Gépé. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.